Hello et bienvenue chez les Décopreneurs, le podcast uniquement dédié aux architectes et décorateurs d'intérieur. Moi, c'est Flore Thieu, je suis décoratrice d'intérieur en Rhône-Alpes et donc podcasteuse maintenant chez les Décopreneurs. J'ai créé ce podcast en juin 2020 et c'est un podcast qui se consacre entièrement à l'aspect business des décorateurs et d'architectes d'intérieur. J'ai de la chance vraiment d'interviewer des professionnels du métier qui souhaitent partager en fait leur parcours ainsi que tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils n'ont pas appris, les erreurs qu'ils ont faites, etc. On peut toujours apprendre des autres. Puis, ils partagent les décisions qu'ils ont prises, les investissements qu'ils ont faits ou encore les stratégies qu'elles ont menées pour porter leur business. D'autres professions complémentaires passent aussi derrière mon micro, comme des coachs en business, des experts en SEO, des comptables ou même des photographes d'intérieur. Ici, vraiment, on parle uniquement entreprise pour aider les entrepreneurs du domaine de la décoration et de l'architecture d'intérieur à créer et maintenir une entreprise au service de leur passion. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, je suis avec Dorothée de l'agence Démesure qu'elle a montée en 2014 avec son conjoint Jonathan. Elle prône le slow design. Elle a commencé par un showroom pour aujourd'hui arriver dans une agence avec une agence de pur architecte d'intérieur et suivi de chantier. Sur leur site, il y a marqué, entre autres, il y a de la fabrication de leur création. Ça, il va falloir qu'on en parle et plein d'autres choses. Bienvenue Dorothée.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais avec plaisir, ça fait 10 ans de métier.
Oui, déjà, et 20 ans d'expérience dans le meuble.
C'est génial. Écoute, je vais t'inviter à revenir sur ton parcours du départ jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît.
Alors, du départ, la petite enfance ou les études?
Non. Quand est-ce que tu as su déjà que tu voulais être dans les meubles? Par exemple, commence par ça.
Ah oui, alors j'ai jamais vraiment su puisque j'ai d'abord fait des études de droit. Je savais pas trop quoi faire, en fait. Du coup, au début, je pensais à la magistrature. Donc, je suis partie, en fait, de droit. J'ai fait 5 ans de droit. Et je me suis orientée vers le droit des affaires quand même parce que, finalement, je savais que ce qui m'intéressait, c'était surtout de créer ma propre entreprise. Je savais pas encore trop dans quoi, mais c'était vraiment plus ça parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Pour la petite histoire, ma maman a eu une boutique de déco quand j'étais petite. Ouais. Donc, quand j'avais 2-3 ans, je faisais mes siestes déjà au rayon vaisselle dans sa boutique. Donc, j'avais déjà ce petit truc. Et puis après, elle a suivi mon papa dans un autre domaine. Et du coup, à la fin de mes études de droit, mes parents ont ouvert une création, un nouveau magasin de meubles et déco à Nantes. Et moi, j'étais sur le marché du travail. Et du coup, j'ai commencé mon premier job dans le droit, c'était un mi-temps. Donc, j'ai fait un mi-temps avec eux au magasin pour les aider au départ. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds dedans. Et après, je ne suis jamais repartie. Je suis restée avec eux pendant 10 ans. Donc, on faisait les achats, mes objets, tout ça. C'est ce qui m'a vraiment, du coup, mis et donné l'envie de travailler dans la déco.
Bien sûr.
Donc, 10 ans d'expérience déjà dans le magasin à faire les achats et ensuite, et la vente. Et ensuite, en fait, des mesures, c'est venu là, c'est qu'on avait de plus en plus de clients en magasin qui nous faisaient cette demande d'un accompagnement. C'était un peu le début des décoratrices, il y en avait certaines qui venaient au magasin. Et on voyait qu'elles se lançaient, qu'elles n'étaient pas forcément au courant des standards, du meuble, etc. On voyait aussi les failles de ce côté-là. Et du coup, on s'est dit, bon, on va peut-être se lancer dans ce domaine-là. Donc, avec mon conjoint, parce que Jonathan, lui, il était illustrateur à la base. Il a travaillé avec moi au magasin de mes parents et c'est comme ça aussi qu'il a appris le meuble. Et du coup, il a envie de revenir au dessin, donc il s'est lancé tout seul au départ, vraiment sur du meuble sur mesure. Donc il faisait ses designs, il a trouvé des fabricants au Portugal et puis il a commencé pendant 2 ans comme ça en auto-entrepreneur à faire du design de meubles sur mesure. Et ensuite, on a créé ensemble des mesures. On s'est dit, bon, bah, ça fonctionne. On va plutôt proposer une offre globale, donc la vente de meubles, mais dans un projet d'archi intérieur. Et donc, on faisait du design de pièces de vie, mais à ce moment-là, on ne faisait pas de travaux. Et quand on s'est lancé, on a donc choisi de créer des mesures. Et pour nous, c'était vraiment… ça passait par un showroom. C'était une agence, c'était pas un magasin, c'était ouvert sur rendez-vous. Après, on avait une permanence quand on était là, la porte est ouverte, bien sûr, mais c'était vraiment un concept un peu hybride entre un magasin et un showroom. Donc, quand on a démarré, on s'est installé, on a emprunté 50 000 euros. On a eu 10 000 euros de prêts d'honneur à taux zéro, là, tu sais, les accompagnements. Et puis, on a ouvert le showroom avec quelques marques qu'on distribuait, plus vraiment des meubles qu'on avait déjà dessinés et qu'on exposait pour pouvoir montrer ce qui était réalisable, quoi, en sur mesure.
D'accord. Donc, et là, pour le coup, le magasin était vraiment tourné vers des meubles ou aussi vers la déco?
Alors, il y avait meubles et archi d'intérieur. C'est-à-dire qu'on proposait aux clients de leur faire une 3D de leur pièce de vie dans laquelle on intégrait un living sur mesure. C'était vraiment beaucoup de pièces de vie, en fait, au départ.
Ouais,
et puis des
sûr.
Chambres, des têtes de lit, des choses comme ça. Mais c'était vraiment... on intégrait le design de meubles dans une vue globale, en 3D. Ah bah, en 3D. Au début, ils faisaient des dessins à la main. Et ça, ça n'a pas duré longtemps. Parce que quand on a vu la perte de temps, quand il fallait faire une modification...
Voilà.
Au départ, il adorait dessiner. Donc, et c'est vrai que c'est sympa, le dessin, mais... Moi, je trouve que concrètement, en plus, après, quand on voit tes plans à l'atelier, la 3D, c'est quand même le top, quoi.
Oui, bien sûr. Tu peux faire combiner les deux.
Ouais. Oui, bah, du coup, il a complètement abandonné le dessin aujourd'hui. Enfin, abandonné dans les présentations. En revanche, tous les designs, il est toujours avec sa feuille et son crayon. Il travaille tout à la main avant de le mettre en 3D, quand même.
Oui, ça, je comprends. OK. OK, donc là, vous avez le showroom. Vous faites des meubles sur mesure.
Oui.
Et puis, des avances.
Oui, et ensuite, bah, comment ça s'est fait 4 ans, je dirais au bout de 4 ans. Déjà, on a eu des demandes pour des cuisines, chose qu'on ne faisait pas non plus au début. Donc, au fur et à mesure, c'est ce que je disais, on a évolué vraiment au fur et à mesure de notre activité, quoi. On a eu d'abord les meubles sur mesure, ensuite on s'est mis à faire des cuisines sur mesure. Et là, c'était hyper intéressant parce que du coup, le marché de la cuisine, c'est un marché qui est énorme, mais hyper concurrentiel. Ouais. Donc,
rentable aussi, non ?
Oui, du coup, il y a du budget sur la cuisine. Tu sais tout de suite que voilà, les gens, ils ont toujours un budget alloué sur la cuisine, ce qui n'est pas forcément le cas pour la pièce de vie, quoi.
Ouais.
Mais c'est quand même très concurrentiel et nous, on ne voulait pas être un cuisiniste de plus. Donc, on est resté sur ce concept de pur sur mesure. Mmh. On fait toujours fabriquer à l'atelier, on n'achète pas les caissons chez un cuisiniste, tout est fait en sur-mesure. Donc, on peut faire ce qu'on veut en taille de caisson, etc. On est parti sur ce créneau-là. Et surtout, travailler des beaux matériaux. C'était ça l'idée, on ne fait pas de strates, c'est que du bois véritable, des choses comme ça. Donc, du coup, on s'est développé là-dessus, la cuisine. Après, on a commencé à faire des petits travaux chez les particuliers. Ensuite, on a développé le pro. On a travaillé beaucoup pour des clients qui avaient des cabinets médicaux, donc on faisait leur cabinet. Et puis, le pro, j'ai fait une boutique aussi, ça c'était avant le confinement, on a fait des boutiques de fringues, lunettes. Et en fait, là, il y a eu le confinement, et c'est là où on a vraiment eu un gros changement, c'est qu'on a décidé d'arrêter avec le showroom.
Pourquoi ?
En fait, avant le confinement, on était locataire dans notre showroom et on s'était dit, tiens, on va peut-être acheter notre propre local pour pouvoir développer, etc. Donc, le confinement arrive, on se dit, bon, bah, c'est peut-être pas le moment d'acheter un local commercial.
Pas tout à fait tout de suite.
Bon, finalement, on aurait pu le faire, hein, mais bon, tu vois bien, dans le contexte, c'était un peu stressant. Et on arrivait à la fin du bail, tu vois, on avait un 3-6-9.
Oui.
On devait être à la 6e année, donc on pouvait partir. C'était en septembre, la fin de notre bail. Donc, on s'est vraiment posé la question. Et comme pendant le confinement, on a quand même continué à travailler de chez nous, on s'est dit finalement, on y arrive très bien.
Finalement, ça passe.
C'est ça. Et en fait, on faisait de plus en plus de projets et de moins en moins... Enfin, les meubles sur mesure, il y en a toujours autant, mais dans les projets. Donc, finalement, de recevoir, d'avoir un espèce de showroom, ça n'avait pas plus forcément autant d'intérêt puisqu'on travaillait beaucoup sur notre réseau. Le showroom, ça nous a permis au départ de nous faire connaître. Hein. C'était super d'avoir une vitrine. Mais après, on travaillait essentiellement sur notre réseau, donc on n'avait plus forcément besoin de cette vitrine. Quoi. Donc finalement, on s'est dit, bon, bah, on tente de s'installer à la maison. On a un bureau, on avait la place, donc on a vraiment fait une pièce dédiée. Et en même temps, cette maison-là, on est dedans depuis 5 ans, on venait de la rénover. Donc, on avait aussi, on l'a montré aussi à nos clients.
Bien sûr.
Donc, finalement, on s'est dit, bon, bah, le showroom, ce sera la maison.
Parce qu'on a une cuisine. En fait, tu fais venir les clients à la maison, entre guillemets.
Chez moi, exactement. Ouais. Là, je les reçois au bureau.
Ouais.
Et par contre, bah, j'ouvre ma porte, je les emmène voir ma cuisine, je montre mon dressing, je montre ma salle de bain. la salle de bain des enfants. Je me sers vraiment de la maison aussi comme un...
C'est rangé chez toi de tout le temps, en fait.
Alors, non. C'est-à-dire que c'est sur rendez-vous, je te rappelle. Donc...
C'est sur rendez-vous, 2 semaines en avance. Et puis, on planifie le truc à mort.
Donc, c'est un peu... On a 3 enfants, hein, donc je ne peux pas dire que c'est rangé. Mais du coup, on fait en sorte que ça le soit un minimum quand on reçoit nos clients. Mais ouais, c'est la contrainte. Hein. Au début, c'est je sais pas si ça le fera, et puis finalement, ça marche bien.
D'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu fermes le showroom, tu reçois les gens plutôt chez toi pour leur montrer ce que tu es capable de faire.
Oui.
Et donc, aujourd'hui, tu fabriques toujours autant les cuisines comme les dressings, comme les meubles.
Tout à fait.
D'accord. Tu fais encore du pro, du particulier.
Oui.
Jonathan est toujours sur les dessins.
Les designs et la pose aussi.
Et toi ?
Et moi ? Eh bien voilà, la question que tout le monde me pose.
Et toi ?
Eh bien moi, je fais plein d'autres choses, je fais tout.
Mais bien sûr.
Tu vois bien tout ce qu'il y a à faire. Et moi, ma partie préférée, c'est vraiment travailler sur les présentations, les présentations clients et toute la recherche de matériaux.
Oh, j'adore ça aussi.
Ouais.
Oh.
Vraiment les recherches de carrelage, etc. On le fait quand même ça à deux aussi, puisque quand il fait les dessins, il fait ses recherches, il les intègre sur ses 3D. Mmh. Et puis après, moi, je fais les sourcings en fonction des 3D. Donc ça, c'est vrai que le projet, on construit ensemble. Après, lui, il est vraiment sur la 3D. Et après, toute la partie shopping, sélection déco, etc. Et depuis 4 ans, là, le suivi de chantier. Et ça, ça prend du temps.
Ah oui, 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 c'est assez chronophage.
C'est ça. Ça n'a pas été simple à mettre en place. Maintenant, ça y est.
Mais on va en parler parce que c'est important. Je veux juste revenir un tout petit peu en arrière en disant que le développement en fait, que vous avez fait entre le showroom et pour le coup votre agence d'architecte intérieur et création, design, vous a quand même autorisé. Ce n'est pas le mot que je veux utiliser, mais c'est celui que je trouve actuellement. Vous a permis, voilà, à travailler chacun sur votre zone de génie.
Oui, oui, oui.
C'est excellent quand même de trouver ça comme ça.
Oui, oui, c'est vrai. Et après, lui, il a pu développer vraiment ce qu'il adore, c'est faire un dessin et le voir prendre vie. Parce que ça, c'est Noël à chaque fois que tu déballes des cartons. Quoi.
Ouais.
C'est quand même fou, tu fais un meuble, il arrive, hop, tu vois, t'as
hop,
fait un dessin.
Et c'est comme tu as dit.
Ouais, voilà, exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est génial. Donc ça, c'est vraiment la partie qu'il adore. Et puis, moi, oui, tout ce côté, après, shopping, installation, j'adore aussi. Quoi. Et c'est vrai qu'au début, c'est pour ça qu'on s'est lancé sur le suivi de chantier, c'était hyper frustrant de faire un dessin, une 3D globale, et après, de ne pas suivre le truc, parce que, après, ça pouvait partir dans tous les sens, et il y a plein de petits détails, en fait, qui font la différence sur un projet. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit... Non, il faut absolument qu'on accompagne nos clients vraiment au niveau global et qu'on fasse ces travaux pour avoir le résultat qu'on souhaite.
Oui, clairement. Et donc, est-ce que vous avez mis en place, parce que là, vous travaillez en couple.
Oui.
Déjà, je suis sûre que parfois, vous vous tapez dessus. Mais est-ce que vous avez mis en place une espèce d'organisation interne qui fait que vous suivez les projets en même temps, ça avance comme il faut, sans que tu dois dire à l'autre « Eh oh !»
On fait beaucoup de points. Mais genre,
beaucoup de points.
Tous les matins, on se dit « Alors toi, tu fais quoi aujourd'hui ?» En gros, c'est ça.
Ouais, mais c'est important.
Bah ouais. Alors, il y a déjà le début de semaine. Après, on a des petites routines. Les réunions de chantier, moi, je les cale les mardis et les jeudis. Les vendredis, je me consacre à toute la partie plus administrative, devis,
aux joies
et tout. Voilà, oui, on est d'accord, hein, c'est pas ma passion.
Non, mais il faut dire, moi, ce que j'adore là-dedans, je fais toujours en sorte que j'ai au moins une facture à envoyer. Parce que dans tout ce qui est administration, la partie que j'adore le plus, c'est envoyer des factures.
Ah, c'est marrant, pas moi, je déteste envoyer les
Ah,
factures.
j'adore! Parce que ça veut dire qu'il y a de
En revanche,
l'argent qui
j'adore
arrive.
renvoyer un devis. Parce que quand j'envoie
Ouais, ça
un...
aussi. Après, mes notes de frais, par contre, je trouve ça moyen.
Oui, ben voilà. Et, mais du coup, le devis, moi, j'adore parce que je me dis, alors là, j'ai tout pensé, j'ai tout mis, mais ça prend du temps de faire un devis hein,
C'est
quand on est
clair.
sur du global.
C'est
Donc, je
tellement
me dis,
sous-estimé, ça.
non, c'est ça. Et moi, une fois qu'il est fait, là, je me dis, ah super, je l'envoie. Et après, tu dis, bon, maintenant, faut qu'il revienne signer, quoi. Donc, c'est un peu
Maintenant, il faut.
le.
Ouais. Est-ce que tu as mis en place justement, est-ce que tu as travaillé là-dessus? Le devis, la présentation de devis, comment tu fais? Est-ce que tu y vas par exemple ou est-ce que tu l'envoies?
Ah
Ou
oui.
est-ce que tu peux me parler de ça?
Oui. Alors ça, c'est un...
Puisque c'est
on
un
a beaucoup
point
évolué.
épineux.
Ouais, on a beaucoup évolué là-dessus parce qu'au départ, bah, comme tout le monde, t'as un logiciel de gestion. De toute façon, c'est obligatoire. Et ton logiciel de gestion, il te sort des trucs pas glamour du tout,
C'est clair, c'est laid.
quoi. Ouais, c'est horrible. T'as beau mettre tes petites couleurs et tes
Et t'as
machins,
travaillé ton logo comme un dingue,
c'est
c'est
ça.
tellement beau,
Il est
limite
tout
la tatoué.
pixelisé.
Et là, sur le devis, il est caché derrière ton numéro de tirette et t'arrives
Voilà.
même pas à l'enlever. C'est l'enfer.
C'est ça, et tu peux pas faire de mise en page. Il te sort des fois, il me met des lignes, et il... voilà, bref, c'est décalé
C'est
sur les
moche,
pages,
juste.
c'est vrai.
Et nous, on est
Donc,
dans le beau.
c'est ça. Du coup, j'ai dit, bon, bah, ça, j'arrête. Donc, je fais deux fois mes devis, c'est un peu pénible. Je le fais dans le logiciel de gestion, et je le refais sur à part
C'est
quand c'est
bien,
plus joli.
vas-y, on se comprend tellement.
Oui, mais c'est horrible. Mais comme ça, après, tu as tes belles images,
Ouais,
tes
bien
belles
sûr.
formulations. Donc, je fais deux fois les devis. Et je les ai, oui, c'est ce que je disais, ça, je les ai toujours travaillés au fur et à mesure. Donc là, ça doit faire 4-5 ans que j'ai à peu près la même chose. Et là, depuis un an ou deux, je rajoute de plus en plus ce que tu as les CGV, mais je rajoute maintenant des clauses sur le devis aussi, pour être sûr,
Ouais.
les trucs qui me
Qu'est-ce que tu mets
paraissent
comme clause
importants.
supplémentaire?
Par exemple, quand je fais du suivi de chantier, on me demande toujours en amont une fourchette de prix sur un chantier.
Du
Logique.
suivi, ouais.
Bah, même du prix du chantier. En fait, tu vas pas signer un chantier et dire aux gens, bah, on verra bien avec les devis combien
Ouais,
va
bon
vous coûter
courage.
votre projet. Ouais, non, mais c'est ça. Donc,
Portez-vous
tu
bien.
présentes un budget. Sauf que quand tu fais ton budget, c'est sans
Ouais.
devis. Donc là, j'ai
Ouais.
remis toutes les clauses sur les devis qui précisent que. Ce sont des budgets estimés, que ça n'a pas valeur de devis, que derrière on va faire des devis artisans et que voilà, je ne peux pas m'engager sur
Ça
des
t'engage à rien, ouais.
fourchettes de prix. Exactement.
Bien sûr.
Et ça, aujourd'hui, je le mets directement sur le document que je présente avec
Ouais.
la fourchette de prix, je préfère. Mais c'est plus que je t'écoute tout ça. Parce
Non. C'est bon
que quand
ça.
j'entends les autres et tout, je me dis, ah oui, c'est vrai, ça, il faut. Donc, je
Il
me suis
faut
dit, ok. Oui.
rajouter
Alors,
pour
le
faire des.
faucon, ça, c'est un truc chez nous qui est très compliqué. Faucon, quand on commence à dire ça, c'est-à-dire qui? C'est que quand
Ah
on dit
oui.
il faut qu'on fasse ça et nous sommes deux, là, on sent que c'est un peu le. Voilà. Qui va le faire? C'est le cadeau. C'est l'expression qu'on déteste le plus, mais qu'on utilise assez souvent.
Oui, mais au moins, tu as un 50-50. Tu vois, ici, quand je dis
Oui, faucon, ah oui,
faucon,
c'est pour toi, t'as
je,
plus le
voilà,
choix.
je, il y a juste le jeu, et puis tac, faut le faire.
Non, non, on peut, mais on a une répartition des tâches qui est quand même assez claire. Et aujourd'hui, vraiment, la seule chose qu'on fait ensemble, c'est le projet du client, les choix des couleurs, etc. Où là, on
Bien
va
sûr.
vraiment, on veut tous les deux s'investir dedans et on va vraiment débattre en amont. Et c'est là où je dis, et c'est ça notre force aussi, c'est ce que je dis aux clients. Quand tu reçois un couple, il y a toujours des désaccords. On dit, en fait, nous, on s'est déjà battu en amont sur votre projet.
Ouais,
Donc
vous inquiétez
maintenant,
pas.
on vous le
Ouais.
présente, c'est bon, normalement, il n'y a plus raison de se battre. C'est déjà débattu. On a
Et
envisagé
donc, ton
toutes les
devis,
options.
revenons là-dessus
Oui,
juste 2 secondes.
excuse-moi.
Non, il n'y a pas de souci. Tu l'envoies, tu le présentes,
Ah
tu.
oui,
Dis-moi.
alors en fait, quand un client nous contacte, nous, on essaie d'aller au maximum chez les clients avant de signer les devis. Après, ça dépend du type de projet, bien sûr. Aujourd'hui, on est obligé de pas mal filtrer, parce qu'avant, quand on faisait essentiellement du meuble, bah, on faisait que ça, on se déplaçait chez les clients à chaque fois, on prenait les maîtrés, etc. Et aujourd'hui, comme on fait beaucoup de projets, on a beaucoup moins de temps de libre. Donc là, je filtre un petit peu en amont. Donc maintenant, je demande, quand c'est juste un projet de meuble, je demande les photos en amont et je donne des idées de budget. Parce que le meuble sur mesure, ça a un coût, ce qui est
Bien
de plus
sûr.
en plus onéreux, hein, faut pas se... cacher, les prix ont quand même augmenté. Donc aujourd'hui, sur des projets de meubles, j'essaie en amont déjà de dire, bon, alors, ok, votre pièce, c'est telle taille, le prix, ce sera à peu près ça. Est-ce que vous voulez quand même un meuble
Est-ce que vous souhaitez continuer?
Je peux pas, c'est un petit peu ça. Et sinon, quand c'est un projet global, une rénovation, un achat de maison, on se déplace avec le client, toujours en amont. D'accord. Ensuite, on établit le devis, on envoie les devis par mail, les devis de presta, je les envoie toujours par mail. En revanche, les devis de meubles, on les présente.
D'accord.
En fait, on présente le projet avec les prix en face. Quoi. On D'accord. essaye, parce qu'on n'a pas toujours les budgets... en temps et en heure, mais on essaye de faire ça comme ça. Okay. Du coup, après, on envoie le mail et puis je suis obligée de relancer souvent par téléphone. Ah, ouais. Je relance souvent par téléphone parce qu'en fait, je suis souvent spammée avec ma boîte mail.
Donc, tu passes un coup de fil?
Ouais, c'est hyper agaçant parce que je sais pas en vrai s'ils ont reçu le mail. Donc, du coup,
j'envoie
un message pour demander s'ils ont bien reçu le mail. Donc, c'est une relance comme une autre, mais c'est réel.
Ouais, mais ça te permet tout de suite de voir s'ils ont des questions par rapport à ce que
voilà,
tu as
Voilà, exactement. Comme ça, ça permet.
Ok, et puis, donc tu relances par téléphone et puis ensuite, voilà. Soit ça signe, soit ça signe pas.
Oui, mais les devis de Presta, on est à 90%, voire plus de devis signés.
Comme on tu sais ce que ça veut dire?
Non.
Si tu écoutes le podcast. Généralement, on dit quand tu as trop de devis signés, que tu n'es pas assez cher.
Ah oui. Alors, pourtant, on a retravaillé nos tarifs.
Ou tu as tellement bien tapé dans ton client cible que tu sais exactement ce qu'il a envie de payer.
Non, mais je pense que c'est ça. Moi, je pense c'est que je cible en amont et je filtre beaucoup en amont. C'est ce que je te disais. Ouais. Je vois bien quand il n'y a pas le... En fait, quand je vois qu'il n'y a pas le budget, je ne fais même pas de devis.
Comment donc, tu filtres les parties presta? Toi, je comprends bien comment tu arrives à filtrer justement les meubles sur mesure. Ça ouais. me paraît plus simple. Comment tu filtres les gens qui arrivent pour un presta?
Alors juste là, c'est pareil. Tu sais, souvent, tu as une demande sur ton site internet. Moi, je rappelle systématiquement, je ne peux pas répondre à une demande par écrit sur mon site internet. J'ai besoin d'échanger avec la personne.
Bien sûr.
Donc là, je l'appelle et je pose les questions de leurs souhaits. J'essaie de bien réexpliquer l'offre globale qu'on peut proposer. Et puis, de parler de budget global direct.
D'accord.
Comme ça, tu vois tout de suite si c'est faisable ou pas.
Oui. OK. Et s'ils disent gloops, c'est pas ça, quoi.
Bah oui, c'est ça.
Ouais, okay.
Donc, éviter de faire un devis. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Hein, tu essaies de mettre tes prix sur ton site, mais c'est vraiment du sur-mesure aussi. Ça dépend du projet. Donc, tu peux pas te donner. Et comme, en plus, c'est vraiment à la carte, nos prestations de service. Hein, que ça va du dessin au dessin avec le suivi, avec les meubles, avec les travaux. Enfin, tu as plein d'offres différentes.
Tu as mis tes prix sur Internet, c'est ça?
Ouais, enfin j'ai essayé, j'ai mis prix du design au mètre carré. Et après, tu as le prix du suivi de chantier que j'ai essayé de faire. En fait, j'ai jamais voulu faire un pourcentage des travaux parce que pour moi, tu as autant de travail que si tu achètes un carrelage Leroy Merlin qu'un carrelage de marque.
Clairement.
Même plus si c'est un Leroy Merlin parce que c'est de la merde et que ça va être chiant, il va mal se couper ou des trucs comme ça. Et j'ai tout intérêt à avoir un beau projet au final avec des beaux matériaux, mais je ne veux pas que le client il pense que je vais lui vendre des matériaux chers parce que je suis payée en pourcentage.
Donc, bien sûr.
Ça, j'aime pas du tout ce concept. Donc, en fait, ce que je faisais avant, c'est que je donnais une enveloppe de budget global. Je disais, ça va faire un 10% du budget, c'est tant. Donc, mon forfait, ce sera tant. Quel que soit les travaux après, ça monte ou pas, je ne bougerai pas mon forfait.
D'accord.
Mais aujourd'hui, du coup, j'ai changé et je pars sur un prix mètre carré. Je trouve qu'en fait, ça a beaucoup plus de sens.
Ouais. Okay. Et c'est quoi ton prix au mètre carré?
Là, je suis entre 100 et 150 euros du mètre carré pour le suivi.
Okay. On va
en
parler un peu
du travaux à faire, bien sûr.
Ouais, bien sûr. J'imagine que ça dépend aussi un peu des nombres de visites que tu dois prévoir et les
c'est ça, et la
de pièces que tu
travaux.
Fais en fait.
Quand tu fais juste changer un sol, tu prends pas ce prix-là, mais quand tu dois bouger des cloisons, refaire des salles de bain, bouger une cuisine, etc. Là. Okay.
Donc là, à un moment ou à un autre, vous sentez le besoin et l'envie surtout d'aller sur du suivi de chantier.
Oui.
J'imagine que ça s'est pas passé entièrement sans heurte.
Tout à fait. En fait, au départ, en même temps, ça a été, mais beaucoup de stress. Au départ, on l'a fait gratuitement, quasiment, en fait.
Ouais. Ouais, c'est le coût de l'apprentissage.
C'est ça. Et au bout d'un, tu te dis, mais donc si je le fais, c'est que j'en suis capable. Donc, ce serait pas mal de le facturer. Ça aurait un petit peu plus de sens.
Ouais, ouais.
Donc, on a démarré, parce qu'on avait déjà un gros réseau d'artisans.
Ouais.
Donc, à chaque fois, les clients, ils nous disaient, donc là, on faisait un dessin, vous devez aller changer votre sol, faire une peinture. Donc, tu lui conseilles un artisan pour le sol, tu lui conseilles un artisan pour la peinture. Ils y vont, ils font leur... Donc là, tu fais pas de suivi, mais... Puis finalement, le client, il t'appelle. Ah bah oui, mais ça et ça. Donc finalement, bon bah, tu fais du suivi.
T'as toujours le nez dedans. Hein,
voilà, donc ça a commencé un peu comme ça. Et on a fait 2-3 chantiers comme ça. Et c'est là où je me suis dit, bon bah, finalement, il faut qu'on vende le suivi. Ce sera plus facile. Et on l'a fait ça, donc un chantier de particulier comme ça et une boutique.
D'accord.
Où finalement on a fait le chantier où là on facturait que les dessins et puis les meubles qu'on vendait derrière. En fait. Et puis après, ouais, on s'est lancé. En fait, j'arrive même pas à savoir comment j'ai basculé. Bah, c'est ce que tu disais, je sais plus, je t'avais entendu dire ça, et c'était exactement ce sentiment. Au bout d'un moment, quand t'en as marre du client, ton client il est adorable et tout, et tu bosses toi comme une tarée. Et comme en fait, tu n'es pas payé pour ce que tu fais, au bout d'un moment, tu n'en peux plus du chantier.
Bah, tu lui en veux à mort.
Oui. Alors
et pourtant,
fait,
c'est pas de sa faute. Hein.
Mais non.
Il n'a rien fait. Toi, tu as facturé ton truc. C'est toi qui as fait ton devis. C'est toi qui as mis le numéro dessus. Tu étais d'accord avec toi-même au moment.
Voilà.
Et puis, tu te. Oh, et tu te auto-haïs en plus.
Ouais, c'est un peu ça. Au bout d'un moment, tu fatigues parce que tu te dis attends, mais je fais tout ça. Donc, c'est énorme. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit bon, bah, on facture. En fait, je pense que c'est venu aussi après confinement, tout ça, quand on s'est installé à la maison, le bureau et tout, où là, j'ai mis en place tous ces devis de suivi, etc. En plus, on a eu, nous, le site internet, quand on a démarré, on l'avait fait nous-mêmes sur Wix, et on a décidé de faire un vrai site, entre
guillemets. Un vrai site, voilà.
Oui, c'est ça. Juste avant le confinement. Et du coup, j'avais déjà mis en place avec une agence... le site, et j'étais sur la phase, j'écris mes textes, etc., quand on a été confinés. Du coup, top, parce que du coup...
Ouais, t'as le temps d'écrire des textes, quoi.
C'est ça. Donc, moi, j'ai pu travailler tout mon site à ce moment-là. Et c'est là aussi où j'ai repensé à mes offres, que j'ai un peu remis en place toutes mes prestations. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a démarré post-confinement avec les suivis.
Ouais, bien sûr.
Et au début, oui, je te disais, les stress de... je me souviens, j'ai eu un appel un dimanche de la cliente, il n'y avait plus d'eau chaude, des trucs comme ça, le plombier qui avait... Enfin, c'était que ça. Et moi, franchement, ça m'empêchait de dormir. C'était le drame. Oui. Le moindre petit truc, j'étais... Et aujourd'hui, plus du tout.
C'est vrai, tu as pris du recul pour le coup.
Ouais, vraiment. Aujourd'hui, je sais que c'est un chantier, qu'en fait, il n'y a que des solutions, qu'à l'arrivée, on va le livrer et que ça va bien se passer. Je connais mes artisans, je sais qu'ils sont pros. Donc oui, ça peut arriver d'avoir une boulette ou un truc, mais derrière, c'est rectifié. En plus, ils sont hyper réactifs, les artisans, donc c'est top. Donc, je ne me stresse plus et surtout, j'essaye de plus répondre aux messages le week-end.
Non, mais tu as tellement raison. Ça, c'est... je ne sais pas qui l'a dit à un moment ou à un autre en disant, ouais, parfois, on peut stresser, mais il faut quand même se rendre compte qu'on ne sauve pas des vies, quoi. Donc,
Mais c'est ça, ouais, exactement. Donc,
à un moment, tu réponds, on l'a dit.
Voilà, ouais, bien sûr. Alors, l'eau chaude, c'est vrai que ça peut être chiant, donc ça, on essaie de gérer. Mais après, voilà, ça t'empêche pas.
Oui, mais tu meurs pas d'une douche froide. Et en plus, c'est vachement bien pour les cheveux.
C'est vrai.
Mais bon, donc, ça, tu peux pas le dire au client, je pense.
Non, ça, tu le dis pas, non. Mais ça c'est vrai qu'il y avait ça. Et puis, je sais pas si c'est bien ou pas. Et d'ailleurs, je cherche une autre solution pour communiquer avec les clients. Je fais des groupes WhatsApp.
Parce que
les mails... Je t'ai dit, c'était compliqué, vu qu'on était souvent spammés. Et en plus, sur les mails, on a chacun notre boîte mail. On a une boîte mail des mesures. Et après, je renvoie tout sur la même boîte parce que tu te dis, je n'ai pas envie de rater. Au final, on se retrouve avec des mails. Donc, tu as des mails parfois qui passent un peu. Tu ne sais pas qui a validé le mail ou quoi là-dessus. Ça peut être un peu compliqué. Donc, WhatsApp, franchement, sur le téléphone, je trouve que c'est hyper bien. On voit tous les messages, on sait qu'il y a eu les infos. Donc, dès que j'ai un chantier qui démarre, c'est un Pinterest, un WhatsApp. Je commence par ça.
Et tu as fait une séparation de téléphone ou pas ?
Est-ce que tu as un deuxième téléphone?
Eh bien non, c'est ça le gros problème. C'est que du coup, je mets en sourdine le week-end. Ben
oui. Oui, mais tu as aussi des amis normalement.
Voilà. Et donc, j'aimerais bien. En fait, c'est compliqué parce que du coup, il y a les amis, les groupes du sport, etc. Et j'aimerais bien avoir en fait un autre réseau pour le pro. Ouais. Ça, il faut que je me renseigne là-dessus.
Moi, j'y songe de changer, de vraiment prendre un téléphone travail, entre guillemets, et de juste le laisser au bureau le vendredi soir. Mais ça veut dire aussi que je dois tout changer. Les cartes de visite, le truc, le machin,
ah oui,
toi.
C'est un numéro. Ouais. Moi, c'est pas tellement ça, parce qu'en vrai, j'aime bien pouvoir travailler. Tu vois, des fois, tu emmènes tes enfants au sport le mercredi, hop, tu réponds un mail.
bien sûr.
C'est quand même aussi ça, avantage et inconvénient, quoi. Mais au moins, tu peux travailler un peu comme tu veux aussi. Donc, je veux pas forcément tout séparer, mais c'est vrai que le week-end, faut pouvoir couper quand même.
Faut pouvoir couper un petit peu. Et en même temps, toi, tu habites avec ton collègue, quoi.
Ouais. Alors ça, et on fonctionne pas du tout pareil. Genre au petit-déj, il va me parler de ce qu'on va faire dans la journée. J'ai dit, ah non.
Non.
Ça, c'est pas possible pour moi.
Je suis encore chez moi, dans ma bulle perso. Hein, laisse-moi tranquille.
Mais alors voilà, la semaine, on coupe pas. On peut parler au dîner, au petit-déj, machin. Mmh. Mais le week-end, par contre, on arrive à se dire, ça y est, une fois que... De vraiment couper.
Oui, bien sûr. Alors, on continue un tout petit peu sur le suivi de chantier, parce que moi, j'aimerais bien savoir les gros trucs que tu as pris. Forcément, il t'est passé par des moments de solitude, par des moments compliqués, mais aussi par des moments sûrement joyeux. Est-ce que tu peux partager un peu là-dessus?
Alors, sur vraiment la partie suivi de chantier, déjà... Ce que j'adore, moi, c'est quand tu travailles le projet vraiment en amont, parce qu'en fait, c'est vraiment un projet de vie que tu partages avec ton client. Donc ça, moi, j'adore ce côté-là relationnel et puis défi aussi, parce qu'ils font un choix qui est important pour eux, pour leur vie de famille. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment la partie que j'adore. Et puis après, mettre en place les devis, choisir les artisans, tout ça. En fait, maintenant, c'est devenu... un peu une routine pour moi, donc j'arrive pas à te retranscrire le stress que je pouvais avoir au départ, parce que aujourd'hui ça se fait vraiment naturellement.
Ouais.
Ce qu'il faut, c'est vraiment, en fait nous en plus on travaille vraiment le projet en amont, donc tout est bouclé, tout est présenté, et après pour moi le devis c'est juste la mise en place du projet. Si je me suis fait des gros stress, si l'année dernière, des présentations de devis où je présente ça sur des tableaux Excel pour avoir, tu vois bien, hein, ton budget global, quoi.
Ouais.
Et des tableaux Excel qui buguaient, avec des cases qui plantent, et du coup, mon total qui n'était pas le bon. J'avais fait une présentation, j'en étais malade. Il y avait un devis qui n'avait pas été mis dans le global. Donc,
un gros
Oui, je ne sais même plus le montant.
Oui, tant qu'à faire. Hein.
Ouais, non, c'était pas énorme en vrai. Mais bon, ça m'avait rendu malade. Et du coup, j'avais rappelé le client derrière. Un petit problème de calcul. Donc ça avait été bien stressant. Et c'est là que du coup, j'ai fait appel à Aurélie, là, qui a une entreprise là, d'aide administrative et financière aux petites entreprises, pour qu'elle vienne me verrouiller tous mes tableaux. Et là, elle a tout repensé. Elle m'a fait des formules que je ne savais même pas faire. C'est là où tu te dis, ah oui, en fait, voilà, c'est bien. Et du coup, j'ai repensé tous mes tableaux de présentation, les calculs. Par exemple, maintenant, sur mes tableaux, tu as le suivi des règlements. Ça, je l'ai toujours fait. Mais aujourd'hui, tu vois, dès que tu as un règlement qui se fait, tu vois le reste à payer. Tu as un total qui se fait par artisan, où tu sais exactement où tu en es par artisan, les virements que tu dois faire par artisan, etc.
Donc,
depuis que j'ai fait ça, parce que voilà, là j'avais trop, c'était des chantiers de plus en plus gros avec de plus en plus de lignes, et du coup, ouais, le stress de. Donc après, je revérifiais tous mes calculs à la main de mes tableaux Excel parce que tellement j'avais été malade. Mais du coup, là, d'avoir fait appel à quelqu'un qui m'a remis tout ça propre, franchement, ça m'a bien déstressé.
Ouais, et ça, je comprends.
Donc de bien travailler ces outils, ouais.
Tous tes projets, aujourd'hui, sont des projets complets, pour le coup, du début à la fin.
Non, c'est mon rêve. On voudrait faire que ça. Mais en fonction de l'activité, l'année dernière, on a eu deux gros projets, donc on a quasiment fait que ça. Mmh. Et là, en début d'année, janvier, on avait moins de gros projets. On a eu... Là, maintenant, on a... En fait, moi, je fais deux chantiers à la fois maximum,
ouais.
En chantier pur. Donc, à côté, tu peux rajouter des cuisines, des meubles pour pouvoir faire notre chiffre. Voilà, on continue toujours de faire le reste parce que je ne peux pas prendre à deux plus de deux gros chantiers à la fois, quoi, en suivi.
Non, non, ça, je comprends.
Donc, du coup, on continue quand même le reste. Mais c'est vrai que moi, je suis plus passionnée par, par le global, quoi.
Oui, bien sûr, parce que tu vois en fait le fruit de ce que tu as fait. J'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière. À un moment ou à un autre, tu as dit, pendant le confinement, ça a été top parce que j'ai travaillé mon site web, mais j'ai aussi retravaillé notre offre. Ça, oui. C'est quelque chose qu'on, je pense qu'on doit faire assez régulièrement, même si on ne va jamais tous les ans le retravailler profondément, mais quand même au moins le regarder et faire en sorte qu'elle soit en phase avec ce qu'on veut. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'es pris justement pour retravailler ton offre par rapport aux clients que tu avais déjà eu, par rapport aux clients que tu as envie d'avoir, tout ça?
En fait, je me suis vraiment repenchée sur le devis à proprement dit, quoi. Et je me suis dit... comment tu vas structurer ton offre? Parce qu'avant, je disais, je vous vends un dessin, des meubles, du suivi. Et aujourd'hui, je vais un peu plus dans le détail. C'est-à-dire que... et aussi, oui, la demande du client, ce que tu disais. Par exemple, aujourd'hui, je vais rajouter une offre de... C'est les projets que j'adore le plus, c'est le clé en main. On te donne les clés. Ouais. Et les clients, ils reviennent, tout est installé. Donc, en fait, là, on fait ça pour du secondaire. On l'a fait pour un appart à la boule, là, notamment. Et en fait, tu déménages carrément les meubles. Donc ça, je veux le rajouter aussi dans mon offre globale. Donc tu rajoutes cette prestade, tu fais le déménagement, tu commences le chantier. Et puis bah, après, tu peux aller jusqu'à mettre la vaisselle dans les tiroirs, par exemple.
Oui, bien sûr. Et déménagement, vraiment, stockage.
Ouais, c'est ça, exactement. Et réinstallation après du tout et... Et ça, ça marche quand les clients... Donc, on fait beaucoup pour du secondaire aujourd'hui, ce qui a un peu moins d'affect pour le client. Parce que je trouve que quand tu veux réaménager jusqu'à la petite cuillère, ça marche si le client, tu lui as donné une inspi, un mood, et il ne te demande pas exactement quel produit. Il te laisse libre sur le... Parce que sinon, c'est impossible. Trop chronophage. Et donc, ça, j'adore. Quand tu as donné un mood et qu'après, il n'y a plus la lampe machin, tu prends la... dans le truc,
mais tu prends l'autre.
Il s'en fout. Le résultat est là, c'est tout ce qui compte. Tu es dans le budget, tu as donné une enveloppe et tu as le résultat.
Mais le fait que tu proposes aujourd'hui déménagement, stockage, clé en main, etc., ça veut dire quand même que tu es parti sur un type de client qui a envie de ça.
Oui.
Tu as mis quand même ton offre face à une clientèle qui était déjà là ou face à un client que tu voulais avoir?
Non, que j'ai eu au fur et à mesure des projets. En fait, aujourd'hui, tu en parles beaucoup dans tes podcasts là, du type de clientèle et je ne m'étais jamais posé cette question de dire est-ce que j'ai un type de client que je souhaite avoir ou pas. Et en fait, ça s'est fait naturellement et effectivement, on s'est rendu compte que c'était cette clientèle-là qui était intéressante. C'est la clientèle qui souhaite vraiment, en fait, qui n'a pas le temps. Et qui veut, qui te délègue le maximum des tâches. Quoi.
Ouais.
C'est vraiment basé sur la confiance pour le coup.
Est-ce que ça a changé par la suite aussi toute ta communication?
Alors ça, j'essaye, mais je suis loin. Dans ma tête.
Dans ma tête, oui.
Oui, ça y a une grosse révolution. C'est-à-dire que là, je suis en cours. Je me suis posée pour essayer de le faire. Aujourd'hui, nous, on avait notre site que je ne fais pas vivre du tout. C'est une catastrophe.
Bravo, mesdames.
Voilà. Donc, de temps en temps, si j'ai mis à jour la compte quand même, je disais, j'avais changé nos prix de Presta. Bon, bah, ça, j'ai mis à jour. À un moment, on avait essayé. Ah oui, on avait aussi mis des meubles en ligne quand même. Enfin, en ligne. J'avais fait un catalogue, je l'ai enlevé parce qu'en fait, trop compliqué. Les matériaux, ils changent tout le temps. J'étais plus à jour, donc j'ai préféré enlever la page. Donc ça, j'ai ça à faire. Donc en fait, j'ai une petite to-do de communication.
Bien.
J'avoue que là-dessus, je suis nulle parce que c'est le truc qui passe après, quoi.
Ouais.
Après, quand t'as fait tout le reste, t'as réussi. Voilà, t'es à jour avec tes clients, t'as envoyé tes factures, tes machins. Après, tu dis bon, communication. Donc là-dessus, j'aimerais bien faire mieux.
Après, tu as déjà outsourcé, parce que ça, c'est un point important aussi dans le développement de votre entreprise. C'est qu'à un moment ou l'autre, tu as commencé à outsourcer. Outsourcer, embaucher, tu peux appeler ça comme tu veux. Oui. Tu as commencé à justement parler. Travailler avec quelqu'un qui a optimisé et verrouillé en fait les processus de financiers, on va dire. Qu'est-ce que ça, à part le fait que ça t'a allégé l'esprit, qu'est-ce que ça t'apporte pour le coup d'embaucher quelqu'un dans ce sens-là?
Alors, ça m'a enlevé une grosse part de stress et ça te permet de prendre du recul sur ce que tu fais et justement de te poser. Et au bout d'un moment, je dis, bon, je la paye à la journée, donc il faut que je paye quelqu'un pour juste me concentrer dans mon travail. Bon,
il faut vraiment que je me concentre. Hein, ouais, c'est ça. Que ça soit rentable.
Donc justement, tu te dis, eh bien, donc là, je donne tout, quoi. Et ce qui est génial, c'est que dans ton agenda, du coup, tu bloques ta journée, de toute façon, puisqu'elle est là avec toi. Et en fait, là, ça allait hyper loin. C'est-à-dire que je lui avais demandé de m'accompagner sur ce point vraiment-là de tableau qui était compliqué. Donc, elle a réfléchi avec moi à comment on pouvait le mettre en place. Elle m'a proposé des améliorations auxquelles je n'avais pas pensé. Et à côté, du coup, j'ai aussi dit, oui, alors là, tu vois, je mets du temps à enregistrer mes dossiers et tout, je galère. Elle m'a aidé à ranger mon ordinateur.
Ah bien.
Mais le rêve. En fait, elle m'a recréé mon enclature dans l'ordi, avec les dossiers, dans quel ordre je pouvais les organiser pour me faciliter la vie. Et en fait, c'est des choses que, évidemment, j'aurais pu faire toute seule. Si tu prends le temps, je le sais, mais je n'aurais jamais pris le temps de me poser pour le faire. Ouais. Et là, comme j'ai échangé avec elle, j'ai dit, ouais, ça, je vais le faire. Et après, je l'ai revue. En fait, je ne me suis pas mis 3 jours avec elle. Je l'ai pris 3 jours l'année dernière, mais étalée. Donc, elle a vu une journée. Puis après, on se revoit dans 2 mois. Et moi, j'avais mes petites missions. Donc, j'ai classé mes dossiers, etc. Et quand elle est revenue, tout était classé. Ça te met un petit challenge. Puis moi, je suis scolaire. Donc, du coup, si tu me donnes ça marche, quoi.
Oui, bien sûr. Et pour le coup, ça te fait gagner du temps et donc de l'argent.
Oui, mais vraiment. Mais sauf que le problème, c'est que tu as toujours l'impression que tu perds du temps. Comme remettre tes devis au propre et tout, refaire ton modèle de devis, ça te prend un temps fou. Tu te dis, mais en fait, le temps que tu vas gagner derrière, c'est énorme.
Faire ton com, faire... Voilà.
Voilà. Et alors après, la com, j'arrive pas à externaliser ça encore.
C'est vrai.
C'est pareil. Il me faudrait quelqu'un qui m'accompagne, mais j'ai pas envie. Insta, je suis nulle parce que je suis pas régulière du tout. Mmh. En plus, c'est horrible parce que les clients, ils te disent... tu travailles beaucoup en ce moment. Bah non, en fait, si je mets des trucs sur Insta, c'est que justement...
J'ai le temps de les mettre, hein. c'est ça.
Donc, des fois, il se passe rien et ils se disent, mince, je ne sais pas ce qu'ils se disent. Mais du coup, là... Donc ça, j'ai un problème là-dessus, c'est que je manque de régularité. Et une fois que tu te lances, tu te dis, ah cool, c'est facile. Puis pendant une semaine, tu vas le faire...
Une semaine et demie max, hein.
Ouais, et après, je lâche. Et quand je lâche 2 semaines, 3 semaines, c'est horrible.
Un mois et demi. Je te crois. Et en plus, Instagram, ça me gratte un peu.
Ouais. Ouais. Alors, moi, j'aime bien. Ah oui, puis en plus, on est deux. On n'est pas d'accord. Lui, il veut mettre toutes ses photos de chantier. Là, dès qu'il déballe un meuble, il est trop content. Il met plein de photos. T'as l'aspirateur, le machin. Donc, je dis, bon. Ouais, je dis, ok, tu peux me le mettre en story. T'en installes, pas de souci. Mais tu ne mets pas ça sur la page, quoi. Donc, on n'est pas d'accord. Et après, quand j'ai des photos de photographes, je les mets. Mais c'est pareil, j'ai du mal à me dire, je balance tout un projet comme ça en une semaine. Je trouve que c'est... Mmh. Donc ça, je le mets sur mon site. Je peux mettre le projet sur le site.
Ouais.
Mais Insta, non, je ne suis pas douée pour Insta. Et en plus, je ne partage pas du tout ma vie perso, parce qu'on habite dans une petite ville. Voilà, donc du coup, je me dis, j'ai envie que les gens, mes clients, ils soient au courant
de ce que je fais
le week-end, machin... Oui, mais je sais bien que du coup, les gens, ils adorent voir nos têtes. J'ai dû mettre 2 fois une photo de nous sur Insta. C'est là où j'ai eu le plus de likes. Hein.
Ouais, mais ça peut être une photo pro.
Oui, c'est ça que j'ai fait. Mais c'est ce qui a bien marché.
De toute façon, les photos, ça te fait 3 fois plus de likes que d'habitude.
Ah ouais, quand t'as une photo de toi.
Ouais.
Toi aussi, ça te fait ça.
Ah, mais tout le monde fait ça. Et très bien, parce qu'il y a aussi tous tes amis qui normalement sont pas là pour te liker.
Oui, c'est vrai. Hein? Là, ils se disent,
ceux qui devraient liker tout ce que tu fais parce qu'ils te soutiennent dans ton entreprise, ceci est un message subliminal, ils likent que tes photos. Et quand tu mets toi, mais ça marche, et je me dis aussi peut-être sur Instagram, une fois que tu mets une photo de toi, puisque tu as beaucoup de likes, il faut ensuite que tu continues à communiquer puisque tu as lancé un peu le mouvement.
Ça, donc du coup, c'est beaucoup trop de pression.
Ouais, donc peut-être effectivement prendre quelqu'un.
Oui, il faut que j'y pense.
Ouais, peut-être. Est-ce que tu as écouté le podcast de Flore Vignol?
Oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai qu'il faut que je me lance.
Chef Instagram.
Ouais. C'est ça. Et donc là, j'ai quand même créé un compte. Ah oui, parce que justement, tu me disais ton client. Je me suis dit, mon client idéal, il est où? Il est sur LinkedIn.
Ah oui. Et là, pour le coup, tu arrives à communiquer?
Mais non, mais j'ai un carré mon compte.
Toujours pas. Ok. Donc, tu as créé un compte.
Parce que en pensant au client idéal. À cause de toi,
mais t'as raison. T'as raison.
Et je sais, après, parce que réellement, ils sont là, tous mes clients.
Ouais, ouais.
Du coup, il a fallu faire un compte perso, d'abord. Ensuite, donc j'ai fait ça. Ça m'a demandé déjà des efforts. Ensuite, j'ai créé le compte des mesures. Et là, je suis arrivée sur le compte des mesures. J'ai dit, bon, bah, faut que je fasse un post. Mon premier post, il est hyper important. Je vais pas mettre n'importe quoi. Donc, il est toujours pas fait.
Voilà. Ça va venir. Mais c'est là où tu mets une photo de vous et que tu expliques qui vous êtes, en fait.
C'est ça, t'as raison.
Le lancement de LinkedIn, tu prends, tu copy-paste avec ton site internet.
Ouais, c'est ça.
Donc, mais oui, là. Donc ça, cette partie-là, il y a encore un peu de...
Je suis pas un exemple.
Il y a un peu de développement encore à faire, là.
Tout à fait.
Après, vous avez quand même fait un parcours assez impressionnant avec l'agence, entre le showroom, le développement, apprendre le suivi de chantier qui ne doit pas être évident.
Oui.
Même si, ce qui aidait peut-être beaucoup, c'est que vous aviez déjà en place une équipe d'artisans avec qui vous avez déjà des rapports professionnels.
Il y a ça, et il y a le fait qu'on soit deux. J'avoue, tu vois, je serais toute seule, je ne me serais peut-être pas lancée sur le suivi de chantier. Là, on est deux. Jonathan, il a des compétences techniques sur le second œuvre.
Ouais.
Il a rénové notre maison. Il sait. Et comme lui, il conçoit les projets, c'est pareil. Ses compétences techniques, elles sont hyper utiles parce que quand il conçoit un projet, c'est ce qu'on voit quand on a des stagiaires qui arrivent d'école de design ou autre, c'est qu'elles font des trucs jolis, tu dis, ouais, enfin, en fait, ça ne tient pas debout. Donc, la compétence technique, elle est quand même importante. Et ouais, aussi pour optimiser les coûts d'un chantier. Tu ne déplaces pas une salle de bain comme ça, hein, parce que tu te dis que ça va être sympa. Donc, non, mais c'est vrai.
Non, ça, c'est sûr.
Là, on a fait une maison à Nantes, on a déplacé une cuisine. Bon, il y avait un vide sanitaire en dessous et tout. Enfin, on a réfléchi, hein, on n'a pas dit, oh, allez, on vous met la cuisine là, ça va être sympa.
Ouais, bien sûr.
On savait que c'était réalisable. Et que ça avait des coûts raisonnables parce que tout est possible aussi. Hein. Après, faut que ça
marche. Faut que ça rentre dans les.
Donc, surtout du coup, voilà le suivi avec Jonathan qui lui a quand même cet aspect technique et qui connaît bien les artisans, c'était quand même plus facile. Parce qu'aujourd'hui, on s'est réparti de cette façon-là, c'est-à-dire que moi je fais le suivi parce que j'ai toute la partie, tu vois, compte rendu, tous les écrits, je convoque les artisans, j'organise les réunions. J'écoute le client, je relève tous les soucis que je peux voir avec le client, je transmets aux artisans, etc. Et à côté, dès que j'ai une question technique, j'ai Jonathan qui intervient et qui va aussi dire à l'artisan, non, là, cette solution, elle est trop chère, tu peux faire comme ça. On est capable aujourd'hui, nous, de dire à un artisan comment on souhaite que le projet se fasse, quoi.
Ouais, non, ça je comprends. C'est là où c'est effectivement une force d'être deux. Et en même temps, ça n'a pas forcément nécessairement avec ton conjoint. Je pense que le fait d'être deux est toujours très intéressant. Donc, pour ceux qui écoutent, ils peuvent aussi plutôt développer de la proximité avec un maître d'œuvre ou la proximité avec un designer ou avec etc., etc. Je pense que c'est très intéressant. Je veux bien, pour terminer, profiter un peu de ton expérience. Profiter, c'est pas, ça fait 10 ans. Je pense que le marché de la déco et de l'architecture d'intérieur a énormément changé en 10 ans. Toi, t'étais là pour le voir. Qu'est-ce que tu as vu?
Pour moi, ça a changé. Oui.
À part les prix qui ont flambé.
Oui, c'est ça.
Quand même.
Je pense que ça s'est démocratisé, le fait effectivement d'avoir un accompagnement.
Ouais.
Je pense qu'aujourd'hui, on reconnaît que un suivi de chantier et des travaux, ça ne se fait pas tout seul. Enfin, en tout cas, moi, mes clients, ils ne se sont jamais dit, tiens, je vais faire ma réno tout seul. Donc ça, je pense qu'il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. On ne se disait pas, un chantier, on va se faire accompagner. Après, sur les... les sélections des marques, etc. Moi, je travaille... Il y a des marques avec qui je travaille depuis 10 ans. Je trouve que ça n'a pas tellement été révolutionné. Le fait que nous, on travaille en fabrique au Portugal, c'est aussi... Il y a 10 ans, ça se faisait très peu.
Ouais.
Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, même dans la fringue ou dans la chaussure. Tu vois, qu'il y a beaucoup de petites marques qui travaillent avec le Portugal. Donc, c'est vrai que nous, on est fiers de pouvoir travailler avec eux parce qu'en fait, on peut proposer des prix qui sont quand même plus abordables. Ça nous permet d'avoir du vrai sur mesure, ce qu'on n'arrivait pas forcément à faire en France quand on a démarré. Et surtout, travailler tout type de matériaux. Donc, c'est vrai que ça... Mais après, du coup, je n'ai pas vu de vrai changement.
À part la démocratisation.
Oui, du fait de se faire accompagner.
Ouais.
Et même maintenant, en tout cas dans le haut de gamme, tout le monde dit mon archi.
Ouais. Ils ont fier d'en avoir un.
Voilà, t'as ton coiffeur et ton archi. D'ailleurs, ça, c'est un problème, tu vois, sur le terme. Nous, je dis qu'on est des designers d'intérieur parce qu'on n'est pas architecte et qu'on n'a pas fait d'études d'architecture pure. Donc, l'architecture d'intérieur, oui, on fait de l'architecture d'intérieur, c'est clair et net. Hein. Mais du coup, c'est vrai que je préfère dire du design intérieur. C'est compliqué. Ouais.
Mais ça, c'est une vraie discussion hein, entre les décorateurs qui se disent quand même architectes d'intérieur, les architectes d'intérieur qui vont, oui ou non, du suivi, qui font du design, mais de la déco. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ça sera pas mal que quelqu'un tranche un tout petit peu là-dessus, parce que c'est quand même des métiers différents. Je veux bien qu'un architecte d'intérieur peut très bien faire de la déco, mais un décorateur ne devrait pas forcément faire de l'architecture d'intérieur. Hein
ouais, c'est pas facile, hein.
Et le design, c'est encore un peu autre chose, tu vois.
Ben nous, c'est pour ça que je dis, on est vraiment designer d'intérieur. Et on fait de l'architecture intérieure, puisqu'on fait du suivi de chantier.
Oui, bien sûr.
Mais on fait vraiment du design. C'est pareil, quand tu dis on fait du meuble sur mesure, il a fallu que j'essaie de montrer qu'on n'était pas des agenceurs. Donc, meuble sur mesure, parfois on m'a appelé, bonjour, je veux un meuble sous escalier. Oui, je peux le faire. Mais nous, on fait du design de meubles. C'est-à-dire que c'est vraiment une pièce à part entière. Ça va être une pièce unique qu'on va créer pour un projet. Ça aura un sens dans le projet, avec des détails que tu ne retrouveras pas ailleurs. Ce n'est pas « je veux une bibliothèque » où le client il arrive avec son dessin et je veux des niches et des machins. Non, ça, je ne fais pas. Ça, c'est de l'agencement. Hein.
Parce que pour le coup, le mot « sur mesure » est aussi bien mal utilisé que…
Ben oui.
Tu vois ?
C'est ça, c'est sur le sur-mesure que c'est pas simple d'expliquer.
Il y a sur-mesure et il y a...
Et du design.
Voilà. Ah, pas mal. Il y a du design et du sur-mesure, donc.
Voilà, et nous, on fait vraiment
Après, encore une fois, dans la bouche du client, ces deux-là sont à peu près pareils.
Ouais. Bah oui, mais le mot design, c'est pareil, il a été très galvaudé.
Ouais.
Pour moi, le design, c'est vraiment penser un meuble beau, utile et fonctionnel. C'est pas un truc design moderne.
Oui. Ok. Écoute, Dorothée, ça a été un plaisir d'échanger avec toi.
Eh bien, je te remercie.
Un grand merci. Et puis, je te dis à bientôt.
Merci à toi. À bientôt.
Merci beaucoup, Dorothée. C'était très intéressant de voir effectivement le développement de l'entreprise sur 10 ans, une entreprise à deux, où il y a eu quand même pas mal d'apprentissage. D'abord, il y a eu le showroom, quelque chose que Dorothée clairement savait déjà faire, Jonathan aussi. Donc, du coup, il y a eu cette première mise en bouche, j'ai envie de dire, du développement. De plus en plus arrive ensuite l'architecture d'intérieur, faire de l'architecture d'intérieur, faire des projets, et puis arrive avec le Covid aussi la gestion des chantiers, un changement ou un développement de type de clients vers quelque chose qui prend les clés en main, là où effectivement Dorothée a trouvé ce qu'elle excelle le plus. Et ça, c'est ultra intéressant de dire, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose. Bien évidemment, elle fait aussi encore plein de choses, ou si on parle de sa communication, elle fait aussi pas les choses dans lesquelles elle excelle pas. Elle doit le faire.
forcément, comme tout entrepreneur, on doit faire des choses qu'on kiffe pas. Mais le gros de son travail aujourd'hui, c'est quelque chose que vraiment elle apprécie de faire. Elle adore faire. Elle adore faire des projets A à Z, clé en main, avec le déménagement, le stockage, le brosse à dents à mettre à la fin. Et ça, c'est hyper intéressant de pouvoir développer justement son entreprise jusqu'à ce point-là. Et pour pouvoir faire ça, il faut écouter son client. Il faut écouter les clients du passé, il faut écouter les clients qui arrivent et il faut écouter soi. Et si ces trois choses, on arrive à effectivement les mettre dans une offre qui correspond à quelque chose, à une vraie demande du marché, ben on va pouvoir en fait avancer là-dedans. Elle n'a pas hésité quand elle a trouvé quand même des points un peu des points un peu craignos, on va dire, elle n'a pas hésité à outsourcer ou à prendre quelqu'un, et dans ce cas c'était quelqu'un qui effectivement a mis au point juste son organisation d'ordinateur, son organisation de devis, ce qui fait qu'elle est plus sereine sur ce qu'elle envoie et elle a libéré en fait de l'espace dans sa tête, parce que soyons honnêtes et clairs, c'est quelqu'un qui a une entreprise et trois enfants. Et donc, du coup, forcément, il faut tout mettre en place pour que ça reste le plus gérable que possible. Et le fait d'outsourcer, prendre quelqu'un, je trouve ça toujours très, très intéressant. Ça peut commencer par un stagiaire, même si, et là, évidemment, je ne parle pas de la stagiaire de troisième. Je pense que les stagiaires de troisième, moi, c'est un peu le BA de l'année, parce que c'est des stages d'observation. Il faut le faire parce qu'il manque cruellement de place de stagiaire de troisième. Voilà, petit message perso à côté. Donc ça, je pense. Et après, c'est toujours un peu... Je trouve ça très intéressant de le faire parce que quand je prends un stagiaire de troisième, ça me met aussi le nez sur ma façon de travailler parce que je suis en train d'expliquer, par exemple, quelque chose et je me rends compte que ça pourrait être mieux, ça pourrait être autrement. Ou déjà, quand je l'entends expliquer, je me fais rire un petit peu parce que je sais que quand les portes sont fermées et qu'ils ne sont pas là, ce n'est pas exactement comme ça, je fais les choses. Mais bon, après, il y a d'autres stagiaires que tu peux prendre. Il y a donc ceux qui, effectivement, sont en école de design et autres, qui nous poussent toujours à aller plus loin. Donc, tout ça, ça nous développe. Et puis, ensuite, prendre des personnes, justement, pour nous faciliter la vie, comme justement quelqu'un qui organise ton ordi, mais aussi un comptable, etc., peut nous libérer du temps, peut nous libérer de l'espace dans la tête. Et donc, du coup, on est encore plus libre ou plus disposé à réfléchir à notre offre, à notre façon de communiquer, à avancer justement sur notre entreprise et pas forcément dans notre entreprise. Voilà. J'ai bien rigolé, donc c'était vraiment très très cool. Je remercie encore Dorothée, je remercie forcément son conjoint Jonathan qui me l'a prêté pendant une heure. Et puis je te remercie comme d'habitude toi aussi, sans toi pas de podcast. Je suis ravie que tu m'écoutes à chaque fois. Il y a plein de choses qu'ils ont en développement pour le podcast actuellement, donc garde un œil sur l'Instagram. Et puis si tu as quelqu'un que tu veux entendre sur le podcast, n'hésite pas à me le dire. S'il y a d'autres choses à me dire, je sais pas, une remarque, un truc, machin, des choses que tu penses peuvent être bien pour le podcast, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message, je suis toujours prête à apprendre. Voilà. Pour aujourd'hui, je te claque une grosse bise et à très bientôt. Ciao !